Ce soir, on va remonter le temps et on va s'apercevoir qu'entre le mouvement de 68 et un des plus grands groupes de rock du monde, le lien était plutôt trouble. Rolling Stones, évidemment, dans Street Fighting Man, le combattant des rues, une chanson qui est sortie en 45 tours en France à la fin de l'été 1968, alors que tout était rentré dans l'ordre. Les paroles déjà sont étonnantes. Face au mouvement de mai, Mick Jagger observe avec ironie le rôle dérisoire de musiciens de rock comme les Stones. Que peut faire un pauvre gars à part chanter dans un groupe de rock'n'roll ? Londres est endormie, il n'y a pas de place pour un combattant des rues. Pourtant, on a pu assister durant cette période à toute une mythification des Stones, présentée comme un groupe insurrectionnel, partisan de toutes les guérillas révolutionnaires autour du monde. C'était dû en grande partie au fait que Jean-Luc Godard, qui clamait alors sa foi maoïste, les avait filmés à Londres en studio, juste après les événements de mai, en train de tâtonner avant d'accoucher d'un de leurs titres légendaires, Sympathy for the Devil. Godard l'avait fait pour les besoins de son film One Plus One, où l'on voyait parallèlement des militants noirs américains des Black Panthers, les Panthères Noires, réciter des textes révolutionnaires en brandissant des fusils. Mais enfin, tout ça, c'était du fantasme. Les Stones n'étaient pas spécialement politisés, comme d'ailleurs la plupart des musiciens de rock britannique, si l'on met à part des minorités qui s'activaient dans l'underground. On y reviendra dans l'émission d'après-demain. Les Stones, comme beaucoup d'autres musiciens, avaient observé avec fascination toute une jeunesse se livrer à des combats romantiques dans les rues de Paris comme aux grandes heures de 1848 et 1871, au temps de la Commune de Paris à laquelle on se référait beaucoup en mai 68, mais enfin, ça s'arrêtait là. D'ailleurs, Mick Jagger était surtout admiratif d'une chose, le fait que les CRS, traités de SS par les manifestants, c'est bien connu, n'avaient en fait tué personne. C'était, à ses yeux, exceptionnel. À part ça, le plus intéressant sur un plan cette fois strictement musical, c'est la façon dont Street Fighting Man a été enregistré. Keith Richards le raconte très bien dans son autobiographie Life, une vie publiée en 2010. Aussi incroyable que ça puisse paraître, il n'y a aucun instrument amplifié dans cet enregistrement à part la basse électrique rajoutée à la toute fin. Richards explique qu'il a bricolé ça dans une chambre d'hôtel avec un enregistreur à mini-cassette Philips. C'était tout nouveau à l'époque, il faisait à la fois office de capteur et d'amplificateur. Il a joué à la guitare sèche et il a adoré la façon dont l'appareil recrachait le son en le distordant avec un petit grésillement qui était évidemment pas prévu. Il a ajouté comme ça plusieurs couches de guitare sèche saturée. Quant à Charlie Watts, il a joué sur une espèce de batterie de poche des années 30. Et oui, qui se replie dans une valise achetée au marché aux puces. Voilà comment travaillait en 1968 le plus grand groupe de rock'n'roll du monde, comme une bande de gamins bricolant dans un garage. Alors bien sûr, les émeutes parisiennes de mai 68 ont passionné tout le monde développé, mais il faut tout de même rappeler que dans la perception mondiale, elles étaient reliées à tout un contexte international. Il y avait bien sûr « Quelque chose dans l'air », pour citer une chanson qu'on entendra tout à l'heure. Fin août 68, l'armée soviétique envoyait 2000 chars et 200 000 hommes pour reprendre la situation en main dans ce qu'on appelait encore la Tchécoslovaquie, là où les dirigeants avaient décidé d'établir unilatéralement ce qu'on désignait comme un, entre guillemets, « socialisme à visage humain ». 300 000 personnes ont alors dû fuir le pays, et je ne vous parle pas évidemment des emprisonnements et de la répression. Deux mois plus tard, en octobre, au Mexique, la police tirait sur des étudiants réclamant des réformes. Bilan, une vingtaine de morts. Ça a été autrement tragique que mai 68. Et puis aux États-Unis, il y avait bien sûr la guerre du Vietnam. Il faut rappeler qu'en ce temps-là, la conscription était obligatoire et ce qui attendait les jeunes gens là-bas était autrement féroce. Un an après, en 69, un groupe de San Francisco qui était associé à l'explosion hippie pacifique de l'année 67, dont le souvenir innocent paraissait bien lointain déjà, Jefferson Airplane, enregistrait une chanson qui s'inscrivait dans ce climat insurrectionnel, ce désir de confrontation. Le temps des manifestations pacifiques hippies était bien révolu et le chanteur et guitariste Paul Kantner se déclarait volontaire pour faire la révolution dans les rues dans cette chanson qui donne son titre à un album paru fin 69, un album de Jefferson Airplane, Volunteers. Revolution got old. Our generation got soul.
tower to fall. Make of you a pyre of flame. Oh, you who dwell on many waters, rich in treasure, wide in fame. You bow unto your god of gold. Your pride of might shall be your shame. For only God can lead his people back unto the earth.
Un étrange chant grégorien pour clore cette chanson plutôt soul, publiée en mai 1968. Il en fallait bien une ce soir. Elle s'appelait Pride of Man. Elle est extraite du premier album d'un groupe californien de San Francisco, précisément Quicksilver Messenger Service, apparu tout comme Jefferson Airplane à l'occasion de la révolution pacifique psychédélique. Une chanson qui clairement appartient à la veine de ce qu'on a appelé le protest song, la chanson contestataire. En général, c'était interprété par un chanteur isolé, à la guitare sèche, sur des airs traditionnels, sur le modèle du premier Bob Dylan ou de John Baez, mais enfin, pas toujours, la preuve. C'est un certain Hamilton Kemp qui a écrit cette chanson, qu'interprète Gary Duncan, qui était le chanteur et guitariste rythmique de Quicksilver Messenger Service, un groupe où a surtout brillé un exceptionnel guitariste solo, John Cipollina, un des meilleurs stylistes de la période psychédélique. Cette chanson est une chanson comme on en écrivait plein en ce temps-là, pleine de références à l'Ancien Testament, l'Égypte, Babylone, annonçant une sorte d'apocalypse. Dieu va punir les hommes aveuglés par leur folie, qui courent à leur perte, les tours vont s'écrouler, les villes vont s'embraser, le châtiment est proche, etc., etc. Alors, évidemment, ça semble loin de certains slogans révolutionnaires de mai 68, mais enfin, si on parle de la jeunesse contestataire d'alors, enfin, de sa frange la plus politisée, celle qui avait lu des livres difficile, historique, théorique, eh bien, faut admettre qu'il y avait une fascination pour la révolution russe de 1917 comme pour la Commune de Paris. Eh bien, quand on étudie les sources de la révolution bolchévique, comme le fait l'historien Yuri Sleskin dans un livre captivant que j'ai commencé à lire, parle un peu de ma vie, pardon, un livre extraordinairement documenté paru à la Découverte qui s'appelle La Maison Éternelle, eh bien, on se rend compte qu'on est en présence d'un même désir de destruction et de purification qui évoque certaines scènes de l'Ancien Testament. Voilà, pour un révolutionnaire russe, il faut tout soumettre au feu du châtiment pour que tout renaisse. Enfin bon, voilà qui nous éloigne un peu de la musique à laquelle, rassurez-vous, je reviens tout de suite. Une chanson d'un genre un peu différent, le groupe s'appelle Buffalo Springfield. C'est celui au sein duquel, en 1966 à Los Angeles, ont fait leur début Stephen Stills et Neil Young. Neil Young fraîchement débarqué du Canada après un passage par New York. La chanson signée Steve Stills, c'est lui qui l'interprète aussi, n'annonce pas l'apocalypse purificatrice, non pas du tout. Elle s'appelle For What It's Worth, pour ce que ça vaut. Et c'est comme une sorte de signal d'avertissement confus. Vous savez, comme quand un chien se met à baisser les oreilles parce qu'il sent la tempête arriver. Il est en train de se passer quelque chose, il a reniflé. Alors, il vocalise, comme on dit, pour dire « faites attention ». Steve Stills aurait écrit les paroles de cette chanson après avoir assisté à la répression policière contre une manifestation d'opposants à la guerre au Vietnam sur Sunset Boulevard à Los Angeles. Et le refrain dit « arrêtez les enfants, c'est quoi ce bruit ?» Tout le monde se doute bien de ce qui se prépare. Buffalo Springfield, For What It's Worth, c'était début 67, et ce soir, c'est sur France Inter.
There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to be.
everybody look what's going down. There's battle lines being drawn, and nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street singing songs and a carry inside. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Paranoia strikes deep into your life, it will creep. Starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. You better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. You better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. You better stop now. What's that sound?
Very Good Trip sur France Inter, Mishka Assayas.
passe-moi les armes et les munitions, on va s'ouvrir notre chemin en faisant tout sauter, il faut qu'on se rassemble tôt ou tard, parce que la révolution est là, et tu sais que c'est juste. C'est rare d'entendre un appel à l'insurrection armée dans une chanson qu'on a pas mal entendue en été, non pas 68, mais 1969. Le contexte avait changé, il s'était durci, on était loin de l'été de l'amour et des fleurs dans les cheveux, même si cette chanson qui s'appelait « Something in the air », quelque chose dans l'air, était mélodieuse et sans agressivité apparente. Le trio londonien, qui en était l'auteur et l'interprète, était assez improbable. Il s'appelait Thunderclap Newman. C'était en fait Pete Townshend des Who qui avait assemblé ce groupe en studio. Il y avait d'abord un certain Speedy Keen, l'auteur et chanteur. Il était d'ailleurs aussi batteur. C'était un repris de justice qui servait à Townshend de chauffeur et homme à tout faire. C'est lui qu'on entend chanter de cette voix haute, un peu étranglée. Il y avait aussi un pianiste au style jazz Nouvelle-Orléans qui avait l'allure d'un grand-père endimanché des années 50, en complet sombre, rondouillard, petit chapeau et nœud papillon. Il s'appelait Andy Newman, surnommé Thunderclap, un coup de tonnerre. C'était un copain de Townshend à l'Art School qui était devenu ingénieur en télécommunication. D'ailleurs, il avait beaucoup hésité à quitter son métier. Qui lui assurait la régularité et un revenu stable. Et il y avait également un guitariste de 16 ans à peine, Jimmy McCulloch, que Townshend avait repéré lors d'une première partie des Who en Écosse, un guitariste qui allait briller au sein du groupe Wings, aux côtés de Paul McCartney, qui d'ailleurs a tristement péri d'une overdose à l'âge de 26 ans, c'était à la fin des années 70. Alors à propos de McCartney et des Beatles, voici une chanson assez moqueuse, des Beatles justement, enfin de John Lennon pour être précis, à propos de cette vague révolutionnaire. Elle s'appelait logiquement Revolution. Elle était parue sous une première version en face B du 45 tours Hey Jude, c'était fin août 68, soit une semaine avant le Street Fighting Man des Stones. Une autre version plus lente allait apparaître trois mois plus tard, Revolution No. 1, dans le double album blanc des Beatles. Alors on pourrait s'étonner d'entendre John Lennon, futur soutien de nombreuses causes pacifistes, féministes, solidaires des opérations violentes des Black Panthers, des Panthères Noirs aux États-Unis, dire des choses comme « Vous dites que vous voulez la révolution, oh là là, vous savez, on a tous envie de changer le monde », ou bien « Quand vous parlez de destruction, alors inutile de compter sur moi », ou encore « Si vous voulez que je me mette à financer des gens aux idées pleines de haine, ben vous pouvez toujours courir », etc. Mais en fait, ça s'explique très simplement. Lennon avait suivi, avec les autres Beatles et leur entourage, des cours de méditation transcendantale dispensés au pied de l'Himalaya par le fameux Maharishi Mahesh Yogi. Et sous cette influence, Lennon conseillait aux révolutionnaires de, je cite, « libérer d'abord leur esprit, on verrait la suite plus tard ». Bon, enfin, il a vite changé d'avis après.
Evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Right. You say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. All right.
constitution. Well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. All right.
21st Century Schizoid Man, l'homme schizoïde du 21e siècle, une vision prophétique du groupe anglais King Crimson, un enregistrement qui a été un coup de tonnerre dans le petit monde de ce qu'on appelait encore en France, de manière un peu naïve, la pop musique. Cette fin d'année 1969, où paraît le premier album de King Crimson, marque un tournant. Au début du mois de juillet, on a appris la mort de Brian Jones, le guitariste des Rolling Stones, noyé dans sa piscine, drogué jusqu'aux yeux. Il avait été chassé du groupe un mois auparavant. Et c'est King Crimson, le jeune groupe dont tout le monde parle, qui a le privilège de jouer en première partie du concert gratuit que les Stones donnent en plein air à Hyde Park à Londres, en hommage à leur ami disparu devant 500 000 personnes. Et de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, malgré Woodstock, il règne un climat de violence et de haine un an après les assassinats en 68 de Martin Luther King et de Robert Kennedy. Les tensions raciales, les bombardements au napalm, au Vietnam, il y a de l'apocalypse dans l'air. Et 21st Century Schizoid Man, c'est un peu le chant du canari dans la mine de charbon, annonçant l'imminence du coup de grisou. Les paroles de Pete Sinfield, qui ne joue d'aucun instrument, mais qui fait partie intégrante de King Crimson, ont des accents des prophètes de l'Ancien Testament. La graine de la mort, l'avidité de l'homme aveuglé, les poètes dépérissent, les enfants saignent, rien de ce qu'il a, il en a vraiment besoin, l'homme schizoïde du 21e siècle. Et d'ailleurs, King Crimson, le roi à cramer, c'est, paraît-il, une des appellations du démon Belzébuth. La voix de Greg Lake est, vous l'avez entendu, hurlante et agressive, distordue, annonçant de cette façon les procédés extrêmes du métal. Et quant à la composition, elle est complexe. Hein. C'est un collage très élaboré où les breaks joués par le saxophoniste Ian MacDonald, qui avait étudié la théorie musicale et l'orchestration, sont inspirés du free jazz de Ornette Coleman. Mais enfin, le socle de King Crimson, c'est et c'est resté le guitariste Robert Fripp, qui avait été, lui, formé au jazz moderne comme à l'avant-garde musicale. Alors, pendant ce temps-là, aux États-Unis, une autre révolte gronde, je vous en parlais, c'est celle de la population noire qui réclame des emplois et plus généralement l'accession au pouvoir et aux responsabilités en lutte contre le pouvoir exclusivement exercé par les Blancs et qui leur est réservé. En été 68, James Brown enregistre avec une chorale des quartiers noirs de Watts et Compton, des banlieues de Los Angeles, ce titre où toute une communauté entend l'écho de sa propre force et de sa propre rage. Say it loud, I'm black and I'm proud. Dites-le fort, je suis noir et je suis fier. We'll be right back.
Very Good Trip sur France Inter.
You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Arm, woman liberationist, and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
The revolution will not be televised. Non, la révolution ne sera pas télévisée, elle n'aura pas de sponsor, pas de partenaires officiels, elle ne sera pas un divertissement coupé par des annonces pour des produits de consommation de l'Amérique blanche. C'est ce que scandait en 1971 le noir new-yorkais Gil Scott-Heron, qu'on présente parfois comme un précurseur du hip-hop. Fils d'un footballeur d'origine jamaïcaine, il était d'ailleurs parti jouer au Celtic de Glasgow en Écosse, et d'une chanteuse d'opéra qui s'était reconvertie comme bibliothécaire dans le quartier du Bronx à New York, Gil Scott-Heron avait obtenu une bourse qui lui avait permis d'étudier la littérature dans une prestigieuse université. Il avait publié son premier livre à l'âge de 19 ans, c'était un roman policier dont il avait tiré la matière en observant les rues de New York. Et pour toucher un public plus large, il avait décidé de mettre ses poèmes en musique et on le considère aujourd'hui comme un des précurseurs du rap. Il avait travaillé avec le réalisateur artistique Bob Teal, qui avait collaboré avec les plus grands noms du jazz, notamment John Coltrane, ce qui avait donné une magnifique musicalité à son album de 61. Pieces of a Man, d'où est tirée la chanson que vous avez entendue. Alors, impossible d'évoquer le vent de révolte qui a soufflé dans ces années-là sans évoquer l'émergence d'une parole féminine nouvelle. Et oui, Janis Joplin est apparue dès 1967 et la chanson que vous allez entendre est un cri de désolation où elle s'exclame « Women is losers », oui, les femmes c'est des perdantes, une des rares chansons qu'elle ait écrite parce qu'elle est plutôt réputée pour ses interprétations des chansons des autres. Celle-ci remonte à 1967, elle figure le premier album du groupe de Big Brother and the Holding Company, c'est le groupe de San Francisco auquel s'était jointe Janis Joplin qui était à l'origine, qui venait du Texas. Voilà, et vous allez l'entendre, Janis Joplin a encouragé beaucoup, beaucoup de femmes à s'imposer dans un domaine où jusque-là elles attendaient que les hommes les invitent à s'exprimer, et cette chanson c'est un cri de désolation, les femmes sont trop souvent des perdantes, mais on sent dans le ton de sa voix qu'un élan la soulève et que sa fureur est prête à soulever des montagnes. Women is Losers, la voix de Janis Joplin en 67. Pour se quitter, il nous reste un petit moment, la voix d'un des héros de Woodstock, Alvin Lee, du groupe Ten Years After, dont une chanson dont le refrain résume bien quelque chose dont on parle pas souvent, les doutes qui accompagnaient toutes les prises de parole révolutionnaires qui pleuvaient dans ces années-là, où les certitudes étaient plus apparentes que profondes. I'd love to change the world, but I don't know what to do. J'aimerais changer le monde, mais je sais pas quoi faire.
fix the rich, feed the poor, tell there are no rich no more. On bleeding, nation bleeding, still more bleeding economy. Life is funny, skies are sunny, bees make honey.
Pour terminer ce premier Very Good Trip consacré à l'esprit de 68, I'd Love to Change the World par Alvin Lee et les 10 Years After, c'était en 71. C'est extrait d'un album qui s'appelle Space in Time. Voilà, bah, j'ai juste le temps de remercier Stéphane Ronxin qui a réalisé l'émission, Pauline Laverdure à la technique, Zora Ben Smiley. Non, c'était... comment s'appelle-t-elle déjà? Lucie, voilà, Lucille Valérie, voilà, pour le site internet, et Romain Couturier, discothèque de Radio France. Et tout de suite, après la pub, vous retrouverez Laurent Goumard et son nouveau rendez-vous.